Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Salut les extraterriens. J'ai encore des frissons de cette interview avec Anne-Caroline Chausson. Anne-Caroline, c'est une légende du vélo, une surdouée du VTT qui est rentrée dans l'histoire à plusieurs reprises. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Pour que tu comprennes, imagine-toi qu'elle a commencé le BMX, toute jeune, et qu'un jour, à ses 18 ans, on lui offre un VTT, on lui demande de tester le VTT de descente, et que 6 mois plus tard, elle devient championne du monde. Imagine maintenant que un an après, on lui dit « Tiens, et si tu pouvais battre le record de vitesse sur neige ?» Et qu'elle y va et qu'elle le fait en 6 mois. C'est normal pour elle. En fait, elle réussit tout ce qu'elle fait. Elle va rester 10 ans au sommet avec 9 titres de championne du monde de VTT de descente. Après une grosse chute, elle s'arrête car elle s'est vraiment fait peur et elle va nous expliquer dans cet épisode sa relation avec la peur et comment la dompter. Bon, après un aussi gros palmarès, elle aurait pu s'arrêter là, mais une nouvelle va transformer sa vie une première fois, puisque le BMX arrive au JO de Pékin en 2008. Tu sais, le sport qu'elle ne pratique plus depuis 10 ans quasiment. Elle se fixe alors 2 ans pour se qualifier et tenter de participer aux Jeux. Et je te laisse deviner la suite, oui, elle va remporter la médaille d'or. L'histoire est sublime, mais seulement voilà, en 2015, elle est frappée par le destin, puisqu'elle apprend qu'elle a un cancer des ovaires. Son cancer est une forme très rare et incurable. Elle a depuis fait 3 chimiothérapies et de nombreuses opérations. Et depuis un an et demi maintenant, Anne-Caroline a choisi d'arrêter les traitements et de vivre tout simplement, d'essayer de lâcher prise, d'essayer d'oublier un petit peu sa souffrance. J'ai été bluffé par sa résilience et son envie de vivre. Je te cache pas que c'est un épisode qui est bouleversant, qu'on a enregistré chez elle à côté d'Avignon. Je m'attendais pas à autant de partages, d'anecdotes, de récits captivants de sa part. Mais je m'attendais encore moins à voir une femme qui souffre depuis 10 ans et qui s'accroche à la vie. C'est un honneur pour moi d'avoir rencontré cette dame que tant d'athlètes m'ont recommandé d'interviewer. C'est un honneur pour moi de lui faire raconter son histoire et de peindre son portrait dans cette interview. J'espère que j'ai été à la hauteur de ses attentes et à la hauteur de tous les gens qui la connaissent et qui ont envie qu'elle raconte son histoire. L'épisode met un petit peu de temps à démarrer, puisque Anne-Caroline a du mal à s'ouvrir. Mais vraiment, je te recommande de l'écouter en entier, car c'est une mine d'or avec des histoires à couper le souffle. Si cet épisode t'a plu, je t'en supplie, envoie un message à Anne-Caroline, car je t'assure qu'elle a besoin de soutien, et j'ai une pensée toute particulière pour elle, et je la remercie sincèrement pour sa confiance et de s'être autant livrée dans cet épisode. Je vous laisse en très bonne compagnie avec Anne-Caroline Chausson. Salut Anne-Caroline.
Salut.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Bah super bien.
Merci infiniment pour ton accueil et puis déjà ce premier moment de parole qu'on a pu avoir en faisant connaissance, tout simplement. C'était très chouette. J'aime bien demander aux invités de commencer par se présenter. Comment est-ce que tu te présentes, Anne-Caroline?
Eh bien, Anne-Caroline Chausson. J'ai 46 ans, je suis une ancienne championne, multi-championne du monde de VTT descente et championne olympique de BMX.
Ok. Il n'y a que ça?
Ouais, il y a plein d'autres choses, mais du coup, je pense que c'est l'essentiel.
Ouais.
Ok. Une ancienne sportive de haut niveau, on va dire.
Ouais. Bon, on va en parler aussi un peu de tout le reste parce qu'il y a quand même des beaux. On peut dire des records, des tentatives, plein d'autres choses que t'as testé, quoi.
Oui, voilà, il y a beaucoup de choses que les gens savent pas forcément. Ouais. Moi, ça a été une carrière bien, bien remplie, oui.
Bon, bah, ouais, c'est vrai. Mais en plus, à chaque fois que je parle de toi, tout le monde me dit « Ah, waouh, tu vas avoir Anne-Caroline, c'est la grande dame du VTT, de la descente. » Et je vois à chaque fois beaucoup d'admiration chez les athlètes, chez les gens un peu du monde du VTT. Donc, je suis un peu ému. Si ma voix est cassée, c'est un peu l'émotion, je l'avoue aussi peut-être. Mais c'est aussi parce que hier, j'ai fait de l'impro. Les auditeurs fidèles sauront de quoi je parle. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas. J'aime bien commencer un petit peu par l'enfance et comprendre un peu... D'où t'es venue, toi, cette envie de VTT et de BMX? C'est quoi ton premier souvenir de sport?
Mon premier souvenir de sport, je ne saurais pas vraiment te le dire. Par contre, je me rappelle très bien comment, en tout cas pour le vélo, ça a commencé. Mes parents ont offert, donc j'ai deux grands frères, je suis originaire de Dijon. Ouais. On a un petit village malin à côté de Dijon. En Bourgogne. Et donc mes parents ont offert des BMX à mes frères. Et puis, avec des copains dans le village, là, ils ont commencé à faire des compétitions.
Okay.
Donc, autour du village, hein, moi, dans la région en tout cas. Et moi, je me vois très bien derrière un grillage en train de les regarder faire leurs courses. Alors, je n'étais pas enfermée, hein, mais c'est sûrement l'impression que ça me laissait, c'est que j'étais un peu laissée pour compte. Et en fait, j'ai voulu faire comme eux. Et puis, okay. C'est mes grands frères. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour eux. J'ai toujours voulu être un peu comme eux. Donc voilà, faire la même chose qu'eux, c'était important pour moi. Donc mes parents ont vite compris qu'il fallait m'offrir aussi un BMX. Et du coup, on s'est retrouvés sur les courses le week-end avec mes frères qui roulaient, mon papa qui s'est mis aussi à rouler et moi-même. Et puis, ça a de suite matché. Hein. J'avais sûrement quelques aptitudes. Je ne sais pas vraiment d'où elles viennent, mais... Mais en tout cas, j'étais, ça me plaisait, j'avais pas peur, j'étais plutôt douée. Donc voilà, c'est parti de là. Je devais avoir à peu près 6-7 ans.
Ok. Et maman, elle a pas tiré un peu la tronche, tu vois, d'avoir tout le monde qui fait du BMX. Et devait être des week-ends très, très BMX à la maison, j'imagine.
Et ouais, c'était... Ils ont rapidement acheté une caravane et puis en fait tous les week-ends on se déplaçait sur les courses.
Ok.
Je pense que ça les arrangeait aussi financièrement parce que si chacun faisait un sport dans son coin, ça aurait été plus compliqué à gérer. Après, sûr que j'ai deux grands frères, je suis la petite dernière. Elle aurait peut-être aimé une fille qui fasse un sport moins dangereux, mais en tout cas. Le souvenir que j'ai de mes parents ou de mes frères ou de mon éducation, c'est vraiment que on choisissait. On choisissait, mais par contre, quand on choisissait quelque chose, on s'engageait. C'était pas je fais un sport pendant un mois et puis ensuite un autre sport et ainsi de suite. Donc, okay. Donc je crois que ça nous a tous plu et puis voilà, hein, c'est parti comme ça et c'était très bien.
Ok. Pour moi qui suis le grand frère de la famille, tu vois, c'est quoi d'être la petite dernière avec deux grands frères qui ont l'air un peu, peut-être pas forcément casse-cou, mais en tout cas qui ont été attirés assez jeunes, tu vois, vers un sport à adrénaline, à sensations fortes?
Bon, déjà, moi, d'avoir mes frères, ça m'a tiré vers le haut, clairement. Parce que donc on a 3 ans et 6 ans de différence.
Ok.
Donc ça fait quand même mes petits gaps. Ça me permettait, si j'étais capable de rester avec eux sur les gestes techniques de BMX et dans le groupe, en fait, c'est un peu, tu fais partie du groupe. Donc moi, ça m'intéressait aussi d'être avec eux et d'être avec des plus grands. Mais ça m'a clairement tiré vers le haut. Et puis aussi, il y avait sûrement un esprit, pas de rivalité, mais avec le plus jeune des deux. Mais oui, lui, il devait traîner sa petite sœur tout le temps, donc peut-être on se chamaillait pas mal. Par contre, il y avait clairement un aspect protecteur du plus grand. Voilà.
Ok. Ça aide aussi, non?
Oui,
J'imagine.
ça aide. Et puis dans toute ma carrière, j'ai été énormément protégée par les garçons qui me connaissaient. J'étais très timide, donc je pense que j'aurais pu être facilement influençable, mais j'ai toujours été bien, bien protégée par les garçons et les plus grands.
Ok. Qu'est-ce qui te fait dire que tu aurais été influençable?
Bon, parce que je suis juste, j'étais réservée, timide et donc j'ai jamais eu de soucis en fait. Mais je pense que j'ai jamais eu de soucis aussi parce que les gens voyaient que j'étais bien, bien entourée tout le temps. Donc
C'est sûr.
c'est ça s'est toujours super bien passé avec les gars et malgré qu'on soit peu de filles en fait.
Ouais. Toi, t'as fait des compètes très jeunes, il y avait déjà des filles, il y avait déjà un circuit féminin.
Alors le BMX, il faut imaginer le BMX dans les années 90, 85, 90. Donc c'était vraiment le tout début de la compétition pour la race. Oui, il y avait des circuits, il y avait des circuits filles. Après, je roulais en région, par exemple, je roulais avec les garçons tout le temps.
Ok.
J'étais un peu. Donc, moi, si j'avais 10 ans, par exemple, je roulais avec les garçons un peu plus jeunes. Et puis, c'est super parce qu'en fait, quand je reprends ma carrière, c'est sûrement ce qui m'a donné le. Enfin, c'est une chance incroyable de s'entraîner avec des gens plus forts. Et on apprend énormément, ça nous tire vers le haut. Donc, moi, rouler avec les garçons, ça m'a toujours intéressé. Et puis c'est sûrement ce qui a fait la différence par la suite. Ouais.
Ok. Et ça t'a jamais manqué au fil de ta carrière? Bah, tu vois, justement, j'en parlais un peu avec Myriam, que tu connais bien. Et elle m'avait dit, tu vois, dans l'interview, que elle a passé un peu un gap dans sa carrière le jour où elle s'est un petit peu émancipée du monde de la descente et du VTT, parce que c'est quand même un monde assez masculin, et qu'elle avait besoin, tu vois, de sa féminité, d'aller se maquiller, d'aller faire des activités entre copines, et que bah, le jour où elle a pris ce temps, en fait, d'exprimer un peu une plus grande part de sa féminité, ses résultats s'en sont ressentis, en fait. Et de quitter un peu le monde du VTT qui était très. Voilà, on voit l'image un peu casse-cou, on voit avec des fois sur les compétitions, c'est du hard rock. Un équipement aussi qui fait un peu peur, vous ressemblez un peu à Robocop, quoi, presque des fois. Toi, tu l'as vécu comment, en fait, cet univers peut-être un peu masculin?
Non, moi je suis beaucoup plus garçon manqué que ce que n'est
Myriam?
Myriam, pardon. Et non, moi, ça m'a jamais pesé. Peut-être un tout petit peu au lycée, parce que forcément, quand tu arrives au lycée et puis que tu as des hématomes sur les jambes, et puis que bon, c'est un peu moins glamour pour les copains. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Je suis vraiment garçon manqué, donc depuis toute petite, a priori. Donc c'est. Dans ce côté féminin où je vois, hein, se maquille, ben, il y a plein de filles qui se maquillent pour aller rouler, tout ça. Moi, je ne l'ai pas du tout. Donc, moi, mon monde, c'est la nature et le sport. Et après, je suis comme je suis, quoi. J'ai des copines, j'ai des copains, je suis une fille, évidemment, mais je suis pas. J'ai pas besoin ou eu besoin de revendiquer quoi que ce soit, quoi. J'ai toujours été naturelle et je suis bien comme ça et ça m'a jamais pesé en tout cas.
Ok. Ouais, il n'y a pas spécialement de remarques des petits garçons, tu vois, à l'époque, tu dis que tu étais très protégé, donc j'imagine que
Non,
ça freine aussi
même
un
les
peu les
remarques.
remarques.
Et puis au contraire, moi, plus on me disait, non, mais c'est une fille, elle peut... c'était plutôt dans le sport, hein. C'est une fille, elle peut pas faire ça, elle peut pas venir. Ben, en fait, je mettais du cœur à essayer de faire ça, quoi, justement pour dire, je suis capable de faire ça, quoi. Et c'était un moteur, en fait. Si j'avais une remarque ou quoi que ce soit, c'était un moteur. Voilà, c'est sûr que quand j'essaye de me replonger, en fait, un peu comment j'étais quand j'étais jeune. Et je me vois bien aussi au collège et tout, mais voilà, je m'habillais pas comme les autres filles, je me maquillais pas, j'étais pas aussi girly que les autres, mais voilà, c'était moi et ça m'a jamais. Pourtant, je suis quelqu'un qui fait quand même attention au regard des autres et tout ça, parce que je suis timide et je veux pas être le vilain petit canard ou quoi, mais non, ça m'a jamais. J'étais moi-même, quoi. Je crois que j'ai vécu et je vis toujours comme je suis. Je suis moi-même et voilà, je suis une fille, je suis pas un garçon. Et puis voilà, quoi.
Ouais, bien
J'ai pas
sûr.
besoin de le prouver ou j'ai pas besoin de me le prouver ou j'ai pas besoin. Puis il y a plein de filles, il y a plein de choses que font des filles dont je n'ai pas besoin, quoi. Donc j'ai été finalement élevée un peu comme des garçons et aussi j'ai beaucoup plus de copains garçons que de filles parce que je crois que je me retrouve plus chez les garçons que dans l'état de pensée et d'esprit que chez les filles, quoi.
Ok.
Tout en étant une femme.
Ouais, bien sûr. Je suis impressionné par un peu le fait que, enfin, t'as l'air de très bien d'assumer ou d'avoir jamais remis ça en question, tu vois.
Non, non, je sais pas. C'est même j'ai entendu hein, le podcast de Myriam et c'est pas. Je me sens pas du tout concernée par ça. Moi, je comprends qu'elle ait eu besoin de faire ça ou que puis je vois bien, c'est vraiment une petite gonzesse quoi. Donc c'est très j'ai beaucoup d'affection pour Myriam, mais il y a aucun souci là-dedans, mais dans mes propos en tout cas. Mais non, moi je m'y retrouve pas quoi. J'ai pas été concernée par ça et
Ouais. Et comment est-ce qu'elle était Anne-Caroline à l'école? Bonne élève, pas trop.
en fait, je veux pas dire comme dans le sport, mais je suis quelqu'un de studieuse. En fait, on a une éducation quand même un peu, je pense, un peu rude. Hein. Il fallait, on était libre, mais il fallait bien faire les choses. Donc, si je revenais avec des mauvaises notes, ça le faisait pas. Et puis moi, même moi, ça me plaisait pas. Donc, mais nos parents nous ont appris à travailler. Donc, et moi, j'étais plus c'était plus compliqué pour moi que pour mon grand frère, le plus grand en tout cas, pour apprendre les choses. Mais bah voilà, je travaillais peut-être plus que lui pour arriver au minimum. Mais en tout cas, ça passait quoi. Ça passait. Je pense que j'étais une bonne élève. Je suis assez calme. Je suis pas une très bonne élève, mais je suis une élève qui a qu'à travailler pour s'en sortir. Et puis le deal après avec mes parents, en étant un peu plus âgé, c'était de passer mon bac. Et puis ensuite, je pourrais faire vraiment que du sport si j'en avais l'occasion, quoi. Mais c'est arrivé comme ça dans la foulée. Mais le but, c'était de passer le bac et rentrer en STAPS à la base.
Tu m'as montré là à l'instant quelques médailles, tu vois. Alors ça m'a fait rire parce qu'effectivement j'en ai vu une 1990, l'année de ma naissance. T'as 13 ans et t'es championne du monde de la catégorie d'âge. Je sais pas trop comment on les appelait ces catégories? T'avais.
À l'époque, ça marchait par catégorie
Vraiment de.
d'âge ou 2 ans d'âge. Donc, mon premier titre de championne du monde, je l'ai eu à 10 ans. C'était au Castellet en France. Et après, je crois que j'ai fait médaille de bronze mes années minimes, 2 années minimes. Puis ensuite, médaille d'argent mes 2 années cadettes. Et médaille d'or au championnat du monde mes 2 années juniors. Bon, l'équivalent, en fait, on va dire.
Il y avait déjà du coup des voyages, je sais pas, 10 ans, 10 ans, 13 ans.
Alors, on voyageait énormément, donc avec mes parents et mes frères dans toute
Pour
la
les
France.
compétitions, ouais.
Après, quand on se qualifiait pour les championnats d'Europe et championnats du monde, on bougeait, mais souvent en Europe, proches, hein, Italie, Espagne, bon, ouais. Norvège. À partir de... Ouais, à part, j'ai bougé quand j'étais un peu plus âgée. Puis après, je bougeais, on va dire, junior. Et puis, je bougeais avec l'équipe de France après.
Ouais, ok.
Mais j'avais pas fait... je suis pas allée... par exemple, je suis allée au Brésil, j'étais junior. J'ai pas voyagé hors Europe avant, quoi.
Ouais, ouais, je vois. Tes frères performaient aussi, du coup ?
Alors, mes frères, c'était des bons Français, sans être des champions. Et puis après, ils ont rapidement arrêté pour leurs études, en fait.
Ok, ok. À quel moment, toi, tu considères le fait de pouvoir ne faire que ça de ta vie ? S'il y avait un deal de aller jusqu'au bac, c'est que le choix, quand même, il s'est fait un peu...
Alors, le choix d'avoir un métier, c'était... en fait, c'était même pas un choix, parce que là, on parle du BMX en 1990-93. Et c'était pas un sport olympique. Moi, mon rêve, c'était d'aller faire une saison aux États-Unis.
Ouais.
J'étais quand même une fille, donc on gagnait... Moi, je sais pas ce qu'étaient les primes à l'époque là-bas pour les filles, mais j'imagine bien que ça aurait été compliqué d'en vivre. Mais mon rêve, voilà, ça aurait été de faire une saison aux États-Unis. Et puis dans la foulée, en fait, ça allait tout très vite, quoi. C'est-à-dire que j'étais en équipe de France de BMX. On était on venait de faire les championnats du monde, donc souvent c'est juillet, les championnats du monde de BMX. Et là, à fin de saison, on décide de partir en vacances avec les gars de l'équipe de France. La plupart étaient sponsorisés par une marque qui s'appelait Sun à l'époque, qui existe toujours. Hein.
C'est une marque de vélo, du coup ?
Sun, ouais, ça a été une des grosses, grosses marques du cyclisme français, moi.
Ouais.
BMX à la base, mais ouais, VTT, ouais. Ils ont eu sûrement une des plus grosses équipes mondiales au niveau du VTT. C'était une des marques les plus connues en France à l'époque. Hein, quand on citait dans la rue, quand on demandait aux gens, Sun, ça revenait dans les 20 premières marques quand même. Donc c'était,
okay.
À l'époque, hein, c'était quand même un gros phénomène. Tous les copains de l'équipe de France, ils étaient sponsorisés par cette marque. Et moi, non. Ils avaient eu l'occasion d'essayer le VTT, puisque la marque faisait aussi des VTT. Et ils m'ont dit, cette année, donc en 1993, il y a les championnats du monde en septembre à Métabier, donc en France. Franchement, il faut que tu essayes ce sport, c'est trop bien et tout. Et donc, eux avaient eu l'occasion déjà de faire des Coupes de France, deux, trois essais. Et bon, je ne savais pas trop où je me lançais, mais j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Et puis, je savais qu'il y avait un copain à mon frère qui faisait ça, moi, du VTT descente. Donc, du coup... via mon frère, ils se sont débrouillés pour me trouver un vélo, en fait, pour que je puisse essayer, en fait, avant le championnat du monde, parce qu'on ne peut pas non plus arriver au championnat du monde et s'inscrire et tout ça. Donc, il fallait que je fasse des courses de qualification, au moins une course de qualification. Il y a un copain à mon frère qui me trouve un sponsor vélo, Gitane, à l'époque. Sauf que quand je rentre de vacances... Et que je l'appelle pour avoir le vélo, et il me le fallait pour la semaine d'après pour partir sur une Coupe de France à Vars. Le gars était parti en vacances également, donc c'était au mois d'août, tout ça. Donc j'ai pas de vélo, et bah là, les copains de l'équipe de France de BMX, ils me disent bah, t'as qu'à appeler le patron de chez Sun. Donc j'appelle Max Commensal, le patron de Sun à l'époque. Et il me dit, bah, lui il était trop content parce qu'il me connaissait du BMX en fait, donc du coup, si j'acceptais un vélo. Un VTT, probablement, je pourrais faire du BMX pour lui aussi après. Donc,
okay.
Donc il m'envoie le vélo, mais dans la semaine, je reçois mon vélo le mardi. Le mercredi, on part à Vars. Le samedi ou le dimanche, je fais la course. Je n'avais même pas passé des vitesses. et je termine troisième. Voilà. Donc, c'était une Coupe de France. Et j'étais junior.
C'était la descente.
Ça, c'était en VTT de descente, ouais.
Ouais, ok. Ta première course.
Je savais vraiment, quand je dis que je savais pas passer les vitesses, c'est-à-dire qu'à Vars, j'avais trouvé un des boutons pour passer les vitesses, mais ça les descendait, donc c'était de plus en plus dur à pédaler.
Ouais.
Et je savais vraiment pas comment faire pour les remonter, quoi. Je parle pas de la course, hein, évidemment, mais du premier jour, quoi. Donc je finis troisième et je me qualifie pour Métabier. Donc j'arrive à Métabier en septembre. Et puis là, ben, je gagne la catégorie junior avec un super temps chez les élites, alors que les conditions, elles étaient dantesques, quoi.
Ah ouais.
Voilà, donc de là, ça va vite. Hein. Je parle début juillet, je ne savais pas que j'allais faire du VTT. Et je me retrouve au championnat du monde, à gagner le titre de championne du monde junior en VTT de descente au mois de septembre. Wow. Donc après, le plan, c'était de se dire...
Attends, il s'est passé combien de temps entre l'envoi du VTT et le titre de championne du monde?
Ouais, un mois et demi. deux mois maximum, quoi.
Wow. Tu réalises quand même, après coup, que l'histoire est un peu folle, quoi.
Ouais, l'histoire, c'était complètement imprévu. Et puis même là, moi, je savais pas trop ce qui m'arrivait, parce que finalement, je suis pas réellement cette discipline. Donc, je connaissais pas réellement les stars de l'époque.
Ouais.
Bon, à ce moment-là, hein, et moi, ma vie, c'était le BMX, quoi. Donc, du coup, on négocie pour la saison d'après de faire donc avec Sun. Là, j'allais clairement intégrer la structure, de faire toutes les Coupes de France et Coupes du Monde qui seraient en France, en Europe. De faire les compétitions, parce qu'il y avait, je sais pas, il y avait Cap d'Ail, il y avait une ou deux courses en Europe, en France. Donc là-bas, c'était de faire les Coupes de France, les Coupes du Monde françaises, et de continuer ma carrière de BMX, en fait. Mmh. Avec, pour moi, une option de dire, bah, là, ils vont m'envoyer quand même faire le circuit américain, ce qu'on appelle les Grands, l'hiver à Oklahoma. Bah, pour moi, c'était réveillé, quoi, partir aux okay. US.
Ouais.
Et puis, donc, je continue comme ça l'hiver, je fais du BMX. Et première Coupe du Monde, donc ouverture de la saison à Cap d'Ail en France. Donc, il n'y a pas de catégorie junior à l'époque en Coupe du Monde. On roulait les élites. Et ben là, je gagne la Coupe du Monde, en fait.
Oh.
Donc là, forcément, je m'étais entraînée quand même tout l'hiver, spécifiquement, pas que pour le BMX. Quoi. J'ai commencé à faire réellement les deux disciplines. Ben, donc là, Max, il me dit, ben, si tu veux, tu peux faire tout le circuit Coupe du Monde.
Ok. Tu peux en vivre là, à l'époque, ou c'est juste des
vélos? À l'époque, voilà, et oui, j'ai oublié l'essentiel quand même, c'est que du coup, je me retrouvais avec un contrat avec de l'argent aussi.
Ouais.
Et alors, je ne gagnais pas des milliers de cents, mais je passais d'un sport où je gagnais des primes à 500 euros, à 500 euros la prime sur les grandes courses, à un contrat, je sais pas, à l'époque c'était en francs, mais je commençais à gagner un peu ma vie, donc ouais. Mais essentiellement si je faisais du VTT, on est d'accord. Hein.
Mmh.
J'aurais pas été payé comme ça pour faire que du BMX. Donc, du coup, en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai continué un tout petit peu le BMX. Et puis, comme ça performait bien en VTT, et puis c'était clairement nouveau,
ouais.
Plus de voyages, plus d'argent, la belle vie hein, quand on a 17 ans. Et qu'on a la chance de vivre sous ça. Je veux dire, naturellement, j'ai arrêté le BMX et pour me consacrer qu'au VTT.
Okay.
Voilà. Et puis, j'avais la chance surtout d'être dans cette structure-là, qui était quand même déjà une des plus grosses au monde. Quoi.
Ouais.
Donc, ça m'a permis d'apprendre énormément parce qu'il y avait d'autres bons coureurs.
Ouais.
Et puis, de rester quand même dans une structure française, un peu familiale. Hein. Mmh. Où on était plein de jeunes, on se connaissait depuis longtemps parce qu'on s'était côtoyés en équipe de France BMX. Et donc c'était le rêve.
Donc vous êtes nombreux à passer du BMX à la descente en fait.
Alors plus ou moins. Bah, y a le plus connu d'entre eux, c'est Cédric Gracien en fait, qui était déjà un peu comme moi, champion en BMX et puis qui a vite performé en VTT descente. Il y avait Florent Poussin, Jean-Christophe Tricard. Après, il y a pas mal de descendeurs du coup, qui roulaient sur Sun, qui se sont mis à la descente à cette période-là. Mais
okay.
Ça n'a pas marché pour tous, mais on était quand même plutôt doués parce qu'on maîtrisait bien les sauts.
Ouais.
Après, il y a d'autres qualités aussi, de pilotage et d'engagement qui sont quand même bien différentes.
Ouais, ok. Avec le recul, je pose une question un peu dilemme, tu vois. S'il y avait les mêmes budgets dans le BMX et dans la descente, tu vois, et que tu avais les deux propositions, qu'est-ce que tu aurais choisi à l'époque?
Dur à dire, mais à mon avis, je serais quand même partie dans le VTT parce que c'était nouveau et que tout était nouveau. C'était plus de voyages et puis... Alors, ce n'est pas des critiques, mais en BMX, souvent, les stadiums, ils sont en ville. C'est un sport quand même urbain à la base.
Ouais.
Alors que là, on se retrouvait dans les plus belles montagnes du monde et à faire du vélo dans la montagne, quoi. c'était chouette. Mais je crois vraiment que c'est l'aspect nouveauté. Nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses. Je crois que ça a été quand même le fil conducteur de ma vie et c'est ce qui me plaît, quoi.
Ok. Ça a plutôt bien marché, donc c'est une belle, un beau mantra en tout cas, tu vois, de suivre la volonté de la nouveauté, d'être curieux, d'apprendre. C'est hyper intéressant. J'ai essayé de chercher, tu vois, comme je voulais qu'on parle un peu de peur, d'engagement aussi, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Comment est-ce que tu faisais pour chaque Coupe du Monde, tu vois, retrouver l'énergie de aller, j'y retourne, avec potentiellement effectivement des risques à la clé quand même qui sont non négligeables, tu vois. J'ai essayé de chercher un peu si t'avais fait des chutes, tu vois, jeune, et je n'en ai pas trouvé. Je me suis dit, waouh, en fait, elle a réussi à... Enfin, ça m'a étonné, en fait. Je me suis dit, je pensais que c'était un passage obligatoire. Qu'en est-il ? Est-ce que c'est mes recherches qui ont été complètement incomplètes, en fait ? ou au contraire, t'as pas eu, avec le recul, t'as pas eu de gros chocs ou une grosse chute qui aurait pu un peu te ralentir ?
Alors déjà, t'as sûrement rien trouvé parce que les infos...
Ouais,
elle passait vraiment beaucoup moins à l'époque. On n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de... Donc si les magazines n'en parlaient pas, finalement, les journalistes, ça restait entre nous, quoi.
Ouais,
donc
ouais.
Des chutes, il y en a eu, forcément. Après, c'est vrai que je me suis très peu blessée. Et puis quand je me suis blessée, finalement, j'ai récupéré, mais ça m'a pas... Il n'y a pas eu la notion de peur après, quoi.
Ouais.
Style, je me casse le poignet sur une Coupe du Monde en France, c'est pas quelque chose qui fait peur après, quoi. Mais par contre, j'avais bien intégré que si je me blessais, je faisais pas de vélo, que je progressais pas.
Ouais. Okay.
Et ainsi de suite, en fait.
Il
y a forcément des passages sur des courses qui me faisaient peur, ou que j'arrivais pas à maîtriser, ou je suis tombée. Mais il y a toujours des solutions pour. Moi, j'ai une approche assez douce, en fait. Je ne suis pas du style à vouloir aller très vite, vite, et puis passer en cata, en fait. Si y a un endroit que je n'arrive pas à passer, je passerai un peu moins vite. Le but, c'est de rester sur le vélo, et mon but, ça a toujours été ça. C'était d'arriver en bas sans me fracasser. Après, c'est vrai que je me suis peu blessée, donc je n'ai pas eu aussi à faire à chaque fois ce schéma pour revenir mais des grosses chutes, il y en a eu. Alors à l'époque, on ne parlait pas de trauma et tout ça, mais j'ai quand même eu des blackouts, choses, moins ce qu'on appelle des commotions aujourd'hui. Il y en a eu qu'une de répertoriée à Mamos, aux États-Unis, pour moi en tout cas. Mais elles ont laissé des traces. C'est juste que moi, je sais que ça a laissé des traces sur ma mémoire, j'ai eu des problèmes d'élocution, des choses comme ça. Mais j'étais jeune et en fait, la seule chose que je voulais, c'était refaire du vélo. Donc, j'ai respecté les temps d'arrêt j'ai quand même eu parce que, par exemple, sur ce crash-là, ça avait été vraiment... ça avait été diagnostiqué, donc il ne fallait pas que je fasse n'importe quoi.
Ouais.
Après, c'était pas... Avant, on tombait... Je pense qu'on tombait autant qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, mais il y avait moins de commotions. Mais c'est juste qu'on avait des commotions, mais qu'on les... On passait outre, je pense, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et après, dans ce sport-là, quand tu commences à avoir peur, je crois que c'est compliqué de continuer à aller vite.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est aussi... Enfin, ça, on n'en a pas parlé encore, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu arrêter le VTT de descente à un moment, et même plutôt jeune. Alors, j'avais déjà eu beaucoup de bons résultats, mais j'étais jeune, j'avais 24 ans.
Ouais.
Mais c'est parce que j'ai commencé à avoir des crashs où en l'air, je me suis dit, là, j'ai quand même failli mourir. Vraiment, à un moment, je suis sur une course en Suisse, je suis tombée dans un ravin, et en l'air, je me suis dit, c'est ce coup-ci, quoi. Et derrière, j'avais pas envie de ça. Je me dis, mais tu, tu, tu t'es fait peur, tu as peut-être frisé la correctionnelle, mais pourquoi en fait? Tu as déjà 15 titres de championne du monde. C'est quoi le but? Et là, j'ai commencé à réfléchir autrement, faire du vélo autrement, et c'est pour ça que j'ai arrêté la descente.
Ouais. Ouais, t'as eu vraiment quand même cette prise de conscience-là par rapport.
Mais ouais, plus jeune, plus âgé, pardon.
Ouais.
C'est vrai que plus jeune, j'ai eu aussi des gros crashs, mais je. Ben ouais, j'avais fait une erreur, j'ai fait ça, mais je j'avais pas conscience que ça pouvait être vraiment grave pour moi, pour le futur, parce que j'ai toujours tout fait pour. Au contraire, pour moi, le sport, c'est un art de vivre, justement pour être en bonne santé et pour se préserver, quoi.
Ouais.
Alors maintenant, on sait que le sport de haut niveau et l'excès de sport, c'est pas bon. Mais nous, à l'époque, non, pour nous, le sport, c'était forcément bien, quoi.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce crash-là en Suisse Tu t'en souviens encore ou...
En fait, déjà, je m'étais blessée. J'aurais dû arrêter au championnat du monde en 2004, au G,
d'accord,
en France. Okay. Et c'était prévu dans mes contrats. Et donc, je gagne la qualif. Et puis, le matin de la course, le matin de la course, aux entraînements, je passe par devant et je me fais une luxation fracture de l'épaule. Et du coup, là, mes parents, c'est rare que mes parents venaient encore me voir sur les courses et toute la famille et tout. Et là, je vois tout le monde qui arrive au centre médical et je venais d'être descendue et je savais que je ne pourrais pas rouler. Donc, je me suis dit, c'est pas possible d'arrêter ma carrière sur une blessure. C'est pas comme ça que je voyais le truc, quoi. Donc, je me suis dit, je vais rempiler pour une année. Et donc, j'ai rempilé pour une année. En voulant pas faire toutes les courses. Donc, je faisais que les courses en Europe, les Coupes du Monde en Europe, les Coupes de France, les courses de préparation pour m'amener jusqu'à ce championnat du monde 2005. Et donc, c'est dans cette préparation-là où j'ai eu ce gros crash. Et après, c'est plus difficile quand même de rouler avec plus d'appréhension et de se dire que là, on risque pas juste de se blesser, mais de mourir. Donc, parce que je l'avais ressenti comme ça au moment où je tombais. Après, peut-être que si je retournais à l'endroit et tout, c'était peut-être pas si dramatique que ça, mais j'avais vraiment eu cette sensation-là. Donc, il a fallu vraiment aller chercher des choses loin pour réussir à aller vite. Et puis, c'est passé.
Ouais.
C'est passé pour mes derniers championnats du monde. J'ai pu gagner. Et par contre, c'est clair que je ne voulais plus faire de compétition derrière parce que je trouvais que pousser, se mettre en danger... Autant pour aller chercher quelque chose que j'avais déjà eu, ça en valait plus la peine.
Ouais. Puis j'imagine l'effort conscient, psychologique, de se remotiver alors que t'as un peu... Il y a une petite voix qui te parle et qui te dit de faire attention.
Alors j'ai toujours eu cette voix qui me disait de faire attention, mais, mais jamais avec cette finalité-là de vraiment de se mettre en danger réellement. Quoi. Et puis comme finalement je me suis peu blessée, ça m'a peu rappelé à l'ordre, donc là ça m'avait bien rappelé à l'ordre.
Ok. Il y a aussi un record qui est moins connu de vitesse sur neige en VTT.
Ouais.
Et tu me disais juste avant qu'on commence que là... T'avais jamais... Enfin, à chaque fois que t'avais essayé, t'avais eu peur.
Ouais, chaque fois que j'ai fait du VTT sur la neige, pour moi, c'est vraiment pas naturel de faire du VTT sur la neige. les skis, c'est fait pour tailler la neige, pour changer de direction avec l'écart et tout. En vélo, on est dans l'axe. Oui, on peut faire du vélo sur la neige, il n'y a pas de souci, mais vraiment, aller très très vite, c'est un sport... Faut gainer, mais on est tout en dérive. On est vraiment à la merci du terrain, en fait. S'il y a des légers dévers, on peut pas lutter. Là, je parle à des vitesses très élevées, 180 à l'heure sur des neiges très dures et qui permettent d'aller vite. J'ai jamais trouvé ça très très naturel. Puis en plus, c'est très d'actualité parce que j'ai vu que l'UCI, l'organisation internationale qui gère le cyclisme, avait mis un titre de champion du monde de vélo sur neige cet hiver.
Okay.
Donc un vrai maillot, en sachant que l'enduro, ils n'ont pas encore de vrai maillot.
Ouais.
Et c'est ce week-end, c'est le week-end qui va arriver à Châtel. Donc je trouve ça incroyable. Mais c'est même pas la même discipline, pour le coup. Hein.
Ouais.
Moi, je faisais vraiment des records sur neige. Donc il y avait cette Italienne, là, Giovanna Bonazzi, qui était aussi une descendeuse. qui faisait les records de neige avec Christian Taillefer, Eric Baron. Donc, ça ne parle pas beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui. Mais, et puis, un jour, le Max Commensal, là, il me dit « ça ne te dirait pas de faire ça ?» C'est arrivé d'une course, je ne sais plus laquelle. Et là, moi, j'avais 19 ans, 18 ans. 18 ans. Non, je n'avais pas le permis encore. Donc, voilà. L'année de mes 18, sûrement. Et moi, oui, oui. Mais je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Je ne connaissais pas du tout, pas beaucoup la neige. Je faisais un tout petit peu de ski, mais voilà. Donc voilà, ils montent une petite équipe. Eric Baron, moi-même, et puis des ingénieurs, et puis un conseiller technique champion de ski de vitesse. On part à Vars et on commence à faire des essais, tout ça, pour être prêt pour ces fameux records de vitesse l'hiver d'après. Et donc au début, on descend sur des pistes rouges, des pistes noires, vraiment quand la neige est très dure, hein, donc quand elle a chauffé et puis regelé derrière. Et puis, puis après, il faut aller sur ce piste de KL, sauf qu'on ne peut pas partir du sommet parce que on se tuerait en fait, hein, partir directement du sommet et aller tout droit. Donc ils inventent une espèce de nacelle qui nous fait partir à la hauteur qu'on veut. Mais en sachant que du moment qu'il nous... Donc le vélo, il est dans l'axe de la pente. Nous, on a les pieds sur cette caisse en bois autour. Et du moment qu'on lâche les freins, du moment qu'il lâche plutôt la pince qui retient notre roue arrière, ouais, on va dire qu'on fait du vélo, mais on ne contrôle pas tant que ça. Et puis voilà, on va jusqu'en bas. Et puis quand on commence à freiner, on part un peu en travers et tout. Donc il faut vraiment y aller avec des pincettes. Franchement, c'est super rock'n'roll. C'est rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll. Et alors, je dois pas avoir peur absolument à toutes mes descentes, mais je me suis lancée dans un truc. Mes parents, ils m'ont toujours dit, il faut aller jusqu'au bout. je suis allée jusqu'au bout, voilà. J'en ai fait un hiver et j'ai eu le record à 177,990 km/h. Et voilà, puis l'année d'après, c'est un peu à la Boubka. Il y a quelqu'un qui est monté un peu plus haut et qui est allé un peu plus vite. Donc ça, c'était le record féminin, évidemment. Et voilà, donc j'ai eu le record de vitesse, ça a été incroyable, je ne sais pas exactement pourquoi j'ai fait ça, mais quand j'ai fait ce record, je disais tout à l'heure, il y avait deux bosses qu'on avait repérées à ski sur la piste, mais qui étaient éloignées, je ne sais pas, moi, de 150 mètres, et moi, j'ai fait roue avant, et en fait, j'ai eu l'impression de faire un record du monde de vitesse sur la roue avant, et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, quand j'ai arrêté, je tremblais et là j'ai les nerfs qu'on lâchait et je pleurais, mais je pleurais c'est le stress qui relâchait, c'était pas le bonheur, hein. Et malgré que j'étais contente d'avoir eu ce record, mais et puis là je me suis dit jamais plus, quoi.
Si je comprends bien, t'étais tellement tendue pendant ce moment là et tellement peu de plaisir aussi, peut-être.
Ah ouais, non, que... tendue, c'est vraiment le mot, ouais. Il y a quand même du pilotage, il faut gainer, il faut pas perdre pied, il faut il faut arriver en bas sur le vélo, donc je suis arrivée en bas sur le vélo, mais c'était déjà beaucoup de surprises parce que je m'attendais pas à voir ces bosses là, de les prendre aussi qu'elles arrivent aussi vite l'une après l'autre. Et puis finalement, ça me levait la roue arrière à chaque fois, en fait. Et, alors, je n'avais pas la roue arrière à 50 cm du sol. Hein. Mais comme on avait la selle très haute, je sentais que ça me poussait vers l'avant. Et c'était vraiment pas agréable, quoi.
Ouais.
C'était pas agréable. Et j'ai pas des très bonnes sensations. Alors qu'après, j'ai essayé le ski de vitesse. Et en ski de vitesse, je me suis toujours régalée.
Ouais.
Mais en VTT de vitesse, non, très, très, très peu.
Puisque t'en parles, c'est quoi les similitudes que t'as appris dans le VTT sur neige au ski de vitesse ? On pourrait dire de l'extérieur, c'est pareil. On pourrait dire, ok, le but c'est d'être sur une ligne droite et d'aller le plus vite possible, plus ou moins.
Je crois surtout que j'ai pas atteint le cap à en faire assez, d'être assez professionnel dans le truc et de rentrer dans les détails. Après, j'imagine que quand tu es à l'aise, quand tu prends... Parce que aussi, je n'étais pas à l'aise parce qu'on ne faisait pas beaucoup des descentes lâchées d'en haut. Moi, lâchées de très haut. Mais si tu prends le temps de tout faire, j'imagine qu'après, les appuis sur l'air, passer leur corps en vélo, maintenant, il est à plus de 220. Donc, en tout cas, les skieurs disent qu'à partir de 220, c'est vraiment là où ça devient du ski de vitesse, c'est-à-dire que c'est plus tu skis plus avec tes jeux, avec tes pieds et la prise de quart pour te diriger, mais c'est vraiment tu changes de position un petit peu tes mains, un petit peu ta tête, tu t'appuies sur l'air en fait. C'est vraiment un sport aérodynamique. Tu t'appuies sur l'air. Et je crois que le vélo, forcément, à 220 km/h, ça doit être ça aussi. Mais moi, je n'ai pas ni atteint cette vitesse, ni atteint cette sensibilité-là, en tout cas.
Ouais. Mais tu as quand même appris des choses.
Ah oui, énormément. Ouais. Bah, déjà, de toute façon, dans tout ce que tu fais, tu ressors forcément des choses, des choses positives, des choses négatives. On a beaucoup travaillé en aérodynamisme, donc beaucoup de soufflerie. Okay. Et ça, je parle de ça, donc c'était dans les années 95.
Ouais, maintenant ça nous semble normal, mais c'est vrai
mais
que...
Mais à l'époque, c'était quand même un peu fou. Donc l'aérodynamisme du vélo, et puis moi, les positions à aborder sur le vélo. D'ailleurs, ce qu'on a apporté au VTT de descente après, grâce à cette expérience-là, à l'époque, ce n'était pas interdit, mais j'ai dû faire au moins 2 championnats du monde avec des combinaisons complètement aérodynamiques.
Ok.
Donc, c'est des combinaisons qui coûtaient, en fait, sur mesure, c'est à peu près 6 000 euros dans un matériel qui ne respire pas, qui ne prend pas l'air. Donc, on les mettait uniquement pour les runs de finale, en fait, sur les championnats du monde. Mais, et puis après, ça a été interdit. Mais on savait clairement qu'au-dessus de 25-30 km/h, il y avait un gain assez conséquent. Surtout s'il y avait des grands plats après. Et puis les pistes de descente de l'époque ne ressemblaient pas à celles d'aujourd'hui. Nous, on avait minimum 5 minutes de course pratiquement tout le temps. Avec des grands pédalages, des grandes relances. Mais vraiment, c'était un peu moins engagé, mais plus physique probablement moins. Plus long en tout cas dans le temps que la descente d'aujourd'hui. Quoi.
Ouais, aujourd'hui c'est quoi 2 minutes 30, 3
ouais,
minutes en moyenne
2 et 4 minutes. Ouais,
ok. Et je savais pas du tout pour ces combinaisons.
Combinaisons.
C'est en quelle année
Je saurais pas dire les années sur les courses sur lesquelles on les a utilisées, mais on pourra retrouver avec les photos.
Ok,
mais,
avec plaisir. Mais
ouais, ça c'était fou. Moi, il y a eu un championnat du monde en Australie, je crois, parce qu'il y avait Nicolas Vouillos qui se battait avec Sean Palmer.
Ok.
Sean Palmer, la superstar du snowboard, mais qui a été aussi une superstar en motocross et en VTT de descente.
C'est fou d'ailleurs.
Et lui, il avait son gros maillot, sa tenue de motocross en fait, hyper hyper baggy, hyper ample, qui volait au vent. Et Nico, il avait cette combi et un peu. Je sais pas s'il avait la combi vraiment plastique là ou s'il avait un truc vraiment resserré. Mais nous, on savait déjà du coup avec toute cette expérience qu'il fallait des tenues près du corps.
Ouais.
Et alors après, il y a eu des déviances avec les gens qui enlevaient leur visière, des choses comme ça pour l'aéronamisme en VTT descente. Puis ça a été interdit. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que tous les gars, là, ils ont des tenues qui ressemblaient exactement à nos tenues qu'on avait en BMX et en VTT il y a plus de 15 ans avec des choses. C'est pas du lycra.
Ouais.
Mais c'est pas loin du lycra quand même.
Ouais, ouais, je vois très bien. À quel moment t'apprends que le BMX, il est réinscrit au jeu ?
Alors, on l'apprend assez longtemps avant quand même. Hein. Je me rappelle pas des dates. Ce que je me rappelle, par contre, c'est que donc je venais d'arrêter ma carrière en comment. Moi, j'avais déjà. C'était un moment où je renégociais mon contrat et du coup, la personne qui a négocié mon contrat avec pour moi en tout cas, il avait dit. On n'a qu'à le mettre dans le contrat que si éventuellement tu as envie de faire du BMX ou quoi. Ça mange pas de pain, il t'aidera à faire du BMX. Voilà. Et puis après, bon, moi j'avais encore des choses, des objectifs à faire en VTT. Donc j'ai eu mon titre en 2005, j'ai fini ma carrière et après, je voulais faire des voyages.
Tu savais pas ce que tu allais faire encore
Non, je savais pas pour le BMX. Mais ça avait été quand même noté. on avait dit, ah ouais, c'est super et tout. Bon, toi, tu faisais du BMX, tu pourrais peut-être t'y remettre. Mais bon, non, moi, j'étais full. J'en avais pas fait depuis 13 ans. Donc, moi, depuis 10 ans à l'époque. Donc, même pas ça m'avait vraiment traversé la tête. Mais on avait quand même marqué dans le contrat. Et puis, en se rapprochant des Jeux, donc je venais d'arrêter ma carrière en compétition en VTT. Comme mon patron, il n'était pas super content, mais il le savait depuis le début que j'allais arrêter, mais il n'était pas super content que j'arrête et que pour lui, je faisais beaucoup de... un peu ce que fait Kylian Bron aujourd'hui, quoi. Je faisais des... pas aussi bien, évidemment, mais je faisais des reportages photos, des voyages à travers le monde, mais c'était le tout début, donc être pro et gagner de l'argent pour faire juste ça, c'était pas évident. À l'époque, on était soit les champions, soit on n'était pas pro. Enfin, soit tu faisais la compétition.
Aujourd'hui, c'est encore plus valorisé, mais
c'était pas le cas. Ah, donc, mon patron, il n'était pas trop content, donc il me faisait faire un peu. Moi, j'appelle ça la fête à la saucisse, c'est-à-dire que toutes les inaugurations de magasins, les choses comme ça, j'y avais le droit aussi. Et finalement, j'avais un calendrier plus chargé. Parce qu'aussi, le but d'arrêter la descente, c'était de me retrouver un peu avec ma famille et puis de profiter un peu plus d'eux et puis voyager un peu moins. Moi, un peu moins tous les week-ends, on va dire. Et là, je me retrouvais à faire plus de choses. Donc, c'était assez fatigant. Et puis, voilà, on s'est pris la tête. Donc, c'est à peine super ambiance avec les partenaires VTT. Et puis, je vais au Roc d'Azur. Au Roc d'Azur, il y a l'équipe de France de BMX. Il y avait une Coupe du Monde de BMX à l'époque à Fréjus, en même temps que le Roc. Et là, il y a des gars, Pablo Gutiérrez, là, qui vient me voir. Il me fait « Ouais, t'as vu, le BMX, il est olympique. Ouais, tu devrais en refaire, tout. Franchement, le niveau chez les filles, il n'est pas ouf. Franchement, t'as ta chance. » Voilà, ça, c'est des mots qui passent, mais qui restent dans ma tête quand même.
Ouais.
Sur le moment, je ne leur apporte pas trop d'attention. Et puis après, la vie fait que je rencontre David Douillet, qui, via mon ex-copain, lui dit qu'éventuellement, je serais... Parce que lui, il le savait, mon ex-copain, tout ça, les histoires, tout ça, je lui avais dit.
Ouais.
Donc pour lui, il se disait, si tu as la chance de faire les Jeux, franchement, il faut tenter l'expérience. Donc il en parle à David Douillet. David Douillet, il insiste bien quoi aussi. Il me dit, franchement, toi, il m'explique, lui, les Jeux, ce que ça représente et tout ça. Donc voilà, la petite graine a commencé à germer. Et puis...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Autre Roc d'Azur l'année d'après, je pense.
Et qu'est-ce qui te donne envie, en fait, dans les discours, juste pour comprendre?
Eh bien, déjà, moi, il faut remettre le contexte, c'est que je n'étais pas super épanoui là, dans ce que je faisais... dans ce qui se passait, je manquais d'objectifs. C'est moi qui avais voulu ça, mais en même temps, on me faisait faire des trucs que j'avais pas envie. Donc, c'était pas super épanoui, on va dire, dans ma fin de carrière VTT.
Tu cherchais plus une porte de sortie, en fait, peut-être.
Je sais pas trop. J'étais jeune quand même, donc j'avais encore des compétences et je voulais les mettre à profit, mais en tout cas différemment. Je cherchais quelque chose de nouveau, en fait, simplement. Hein. Donc voilà, donc la nouveauté. Je sais pas si c'était la nouveauté, parce que refaire du BMX, ça, c'était pas quelque chose de nouveau, mais par contre le challenge, je pense que ce qui m'a plu, c'était le challenge. Donc je me suis dit allez, il y a l'entraîneur de l'équipe de France de BMX qui était venu me voir aussi, à peu près dans le même laps de temps dans cette année-là. Donc moi je me dis je vais tenter de me qualifier pour les Jeux. Là, on ne parle pas de gagner les Jeux. Hein. C'est vivre une expérience olympique, voir ce que c'est de l'intérieur. Quoi.
Ouais.
Et j'en parle à mon partenaire de VTT. Puis lui, ça ne lui va pas du tout. Malgré que... Donc du coup, je suis un peu comme ça, en fait. Plus c'est difficile et plus ça va être difficile, plus il faut que j'essaye. Quoi.
Okay.
Et du coup, je me retrouve sans sponsor. Mais du coup, on se fâche avec mon sponsor. Donc, c'était Commensal à l'époque. Donc, le même Commensal qui m'avait...
Ouais.
Mais entre-temps, il y a eu des... Je suis partie aux États-Unis, chez Cannondale. Il y a eu plein d'histoires, mais j'étais revenue chez Commensal pour ma fin de carrière VTT. Et ça s'était très bien passé. Mais là, voilà, bon, il y a eu un clash. Donc, je me retrouve sans sponsor, à essayer une nouvelle discipline, à me remettre au BMX, une discipline que je n'avais pas faite depuis 13 ans. Voilà, pour essayer de tenter de me qualifier au jeu, en sachant qu'il y aurait deux Françaises, qu'il y en a une qui était championne du monde ou qui faisait des podiums Coupe du Monde, donc qui était quasiment sûre d'être sélectionnée. Donc, il restait une petite place. L'objectif, il était là. Donc ça, c'était, j'essaie de replacer les choses, en 2006, fin 2006. Je reçois je commande un BMX, je me renseigne, hein, je prends des infos. Je commande un BMX sur Internet, que je reçois fin janvier 2007. Okay. Entre-temps, j'avais rappelé mon entraîneur, l'entraîneur qui m'avait le plus suivi en toute ma carrière, Stéphane Girard, que je salue parce qu'en fait, c'est un grand entraîneur et que pas grand monde ne connaît. Et qui a entraîné aussi Nicolas Vouilloz, Greg Minard. Donc voilà, pratiquement toute leur carrière. Donc je le rappelle. Je rappelle l'entraîneur de l'équipe de France pour avoir un support technique quand même, parce que alors là, je vais quand même dans l'inconnu. Et puis j'avais un copain, David, qui chante, un ami d'enfance du village, qui était aussi entraîneur d'un club à Montmélian. Donc du coup, je recontacte un peu tout le monde, et tout le monde me dit « Banzai, on va t'aider ». Donc j'ai pris un appart sur Aix, parce que le Pôle France BMX était à Aix en Provence, ils avaient une piste. En fait, je m'entraînais 3 jours par semaine avec eux. Et puis le reste du temps, j'étais à Vars, ou donc en station de ski, hein, où je faisais la partie physique.
Ok.
Donc j'ai fonctionné comme ça pendant une saison. Et alors c'est compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, faire des sprints sur la neige avec un BMX. Quand j'arrive à Montmélian et que je fais mes premiers tours de roue avec David, là on se regarde et on se dit bah là c'est vraiment pas gagné. En fait, ce vélo, c'était vraiment tout petit et j'arrivais pas bien à me positionner dessus, à le maîtriser. Et même la cadence de pédalage, des choses comme ça. Donc les bosses me faisaient pas vraiment peur, parce qu'en VTT, je faisais des sauts beaucoup plus gros. Mais par contre, ce que j'arrivais pas vraiment à appréhender, c'était la vitesse à laquelle je devais pédaler pour avoir la vitesse pour réussir à sauter ces sauts, en fait. C'est-à-dire qu'en VTT descente, tu lâches les freins, tu pédales un petit peu, mais c'est plus vraiment que tu as vraiment à gérer le saut en lui-même. Ou la vitesse d'approche, c'est plutôt souvent du freinage, quoi. Moins de. T'ajustes.
Ouais.
Alors que là, clairement, je manquais de physique pour sauter les plus gros sauts, moi, et de cadence de pédalage. Mais ça ne me faisait pas peur, donc j'y allais quand même. Donc je faisais un peu des cascades quand même. Et c'est ce qui m'a posé le plus de difficultés, en fait. C'est que j'ai mis un petit peu de temps à me régler et il fallait pas que je me blesse non plus. Donc j'avais peu de temps si je voulais réussir j'avais peu de temps pour faire tout ça. Et puis en fait, ça a super bien marché. Donc j'ai mon vélo fin janvier et puis début mai ou avril, là, je fais des courses avec les garçons en régional. Ça se passait pas trop mal, moi j'apprenais. Hein. Et puis dès que je me suis retrouvée en Coupe de France avec les filles, bah, j'étais plutôt devant. Coupe d'Europe, j'étais plutôt devant. Et du coup, je finis la saison en faisant championne de France, championne d'Europe. Et je tombe en finale au championnat du monde au Canada en faisant tomber l'autre française. Donc là, il y avait ambiance aussi au niveau de l'équipe.
Ouais, je voulais te demander ça d'ailleurs comme question.
Et donc cette même année-là, je perds mon papa. Et Steve, je pars, on l'enterre. Et je pars la même semaine sur la pré-olympique. Donc c'est la répétition un an avant les Jeux sur la même piste et tout ça. Et je fais deuxième de ce course. Donc c'était, je crois, probablement ma première... mon premier podium sur une Coupe du Monde.
Okay.
Donc ça faisait pas un an que j'avais repris le BMX. Et pour moi, j'étais super contente. Puis la Fédé, mais le soir de la course, hein, ils viennent me voir. Et puis en fait, ils me lancent un peu c'était comment ça s'appelle, je perds mes mots. Mais il fallait, en fait, il me disait que j'avais fait une belle saison, mais que là maintenant j'allais stagner et puis que il fallait que je les rejoigne à 100% au Pôle France. Donc pareil, il faut imaginer le sport en 2008, un sport jeune. La Fédé avait énormément investi. Donc, d'ailleurs, ils ont fait du super boulot avec tous ces jeunes. Et je pense que ça les embêtait qu'il y ait un électron libre là qui arrive et puis qui arrive à faire des perfs
sans eux.
Pas sans eux, quoi.
Ouais.
Donc du coup, j'ai toujours pas retrouvé mon mot.
Un espèce d'ultimatum,
ouais,
un
voilà,
peu.
Il me lance un ultimatum. Ouais. Donc soit. Il faut que tu rejoignes la Fédé à 100%. Donc, il faut que je m'installe sur Aix et que je rejoigne le pôle et tout. Mais moi, je savais que si j'avais performé autant, c'est parce que j'avais mon entraîneur qui me connaissait et qui savait comment mon corps il réagissait aux charges d'entraînement et tout ça. Alors, j'étais consciente qu'il fallait changer des choses, qu'il fallait affiner des choses pour continuer de progresser. Mais par contre, pas dans ces conditions-là, pas en arrivant avec un entraîneur qui ne me connaissait pas du tout à un an des Jeux, quoi.
Ouais.
Donc, du coup, je suis un peu testarde et puis j'aime pas trop. C'est bien quand on dit aux gens qu'ils ont fait quand même du beau boulot et puis qu'on est fiers d'eux, quoi. Alors que là, c'était plutôt en interne, avec ma structure, moi, ça se passait bien. Mais là, c'était plutôt, tu vas te planter, quoi, si tu continues comme ça. Alors que ouais. Tout le monde portait à croire que j'allais continuer à progresser. Donc, je l'ai un peu mal pris. Et finalement, je leur ai dit que non, que j'ai pris un mois de réflexion. Je suis partie en vacances. Et au retour, j'aurais dit, ben non, ils étaient sûrs que j'allais accepter, en fait, parce que je n'avais pas vraiment le choix. Et en fait, non. Donc là, je me séparais complètement de la structure Pôle France qui me donnait mon support technique. Et il fallait que je retrouve une autre base pour continuer à progresser. Donc j'ai déménagé dans le Vaucluse, où je suis toujours, finalement. Parce qu'il y a 3 pistes de BMX. Moi, il y avait plein de pistes de BMX autour. Un gars qui s'occupait de ma muscu. Et voilà, j'ai renforcé, on va dire, ma petite structure d'entraînement. Mais sans faire du tout avec le Pôle France, en sachant que de toute façon j'étais en équipe de France et que je faisais quand même tous les stages avec eux, mais qu'avec les tensions qu'il y avait aussi dans l'équipe, il fallait que je compte avoir mon entraîneur avec moi sur aucune Coupe du Monde ou les championnats du monde ou encore moins les Jeux. Donc tout ça, en fait, toutes ces tensions, ça m'a permis finalement de m'entraîner dans les conditions que j'aurais pour les Jeux.
Ok.
Donc voilà. Et puis de toute façon, rapidement, ils nous ont annoncé qu'on allait être sélectionnés pour les Jeux. Donc il y avait Laetitia, le corguillet,
ouais.
Qui était au Pôle France, et moi. Et de là, on a eu l'esprit bien libre quand même pour s'entraîner à 100% pour les Jeux.
Ok.
Donc là, mon objectif, il se repositionne aussi. C'est que j'allais participer à mon rêve olympique. Et là, on allait viser une médaille maintenant. J'étais capable de faire un podium sur une Coupe du Monde, c'était pas un coup de chance. Donc j'allais tenter d'aller chercher une médaille. Donc à partir de là, clairement, je mets ma vie de côté, ma vie personnelle.
Ouais.
Je déménage, moi, j'étais déjà beaucoup à Aix, mais là du coup j'emménage chez un ami pas loin d'ici. Voilà, je commence à prendre mes petites habitudes, mais je ne fais plus d'aller-retour. Jusqu'au jeu, là, ça allait être de l'entraînement 100%. 100% dédié, ma vie 100% dédiée à cet objectif, quoi.
Ok. Qu'est-ce que tu as mis en place, en plus?
Déjà, de ne pas faire tous les allers-retours. On a vu avec les clubs du coin. Parce que finalement, je roulais surtout sur la piste d'entraînement du Pôle France, à Aix-en-Provence. Qui était plus une piste supercross, mais je pense que je variais pas assez mes pistes, parce que là j'avais besoin de prendre de l'expérience dans plein de conditions différentes. Donc ici, en étant basé à Pernes-les-Fontaines, il y avait la piste de Pernes, la piste de Cavaillon, on pouvait descendre aussi vers Marseille, monter un peu vers Lyon, il y avait plein de pistes, et je m'entraînais énormément avec des cadets qui techniquement étaient un peu meilleurs que moi. Des hommes, hein. Techniquement ils étaient un peu meilleurs que moi, voire mon niveau, donc moi je continuais de progresser techniquement grâce à eux. Puis physiquement, il y avait aussi des un peu plus âgés avec qui j'arrivais à me tirer la bourre, mais en tout cas le fait d'avoir du monde et puis du monde de plein d'horizons différents plein de niveaux différents, ça m'a continué j'ai continué à progresser énormément, quoi, très vite. Et puis après, j'avais une... Donc ça, c'était pour le côté sportif, mais j'étais logée chez des amis. J'avais des amis du VTT qui habitent pas loin aussi. Donc j'arrivais quand même aussi à me changer les idées et à pas être toute seule, à penser que BMX. Même si ma vie, bon, en tout cas sentimentale, tout ça, perso, c'était très compliqué parce qu'on se voyait plus du tout avec mon copain. Mais j'étais... J'avais quand même d'autres occupations que de faire que du BMX. Moi, je voyais d'autres personnes et on parlait d'autre chose que du BMX et de l'entraînement, quoi.
Ok, ouais, il faut un peu.
oui, il faut, oui.
C'est impressionnant à quel point le fait que tu aies été autonome sur la création de ton entraînement, de ton rythme de vie, de tes partenaires un peu techniques, tu vois, ça t'a forcé à avoir une réflexion, j'ai l'impression, supplémentaire à si on t'avait apporté un truc un peu tout fait, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois.
Ben en fait, c'est comme ça que je me suis construite. C'est-à-dire qu'avant, on avait été de descente. Les équipes, elles étaient quand même professionnelles, mais peut-être pas autant que maintenant. Et puis, on n'avait pas accès à tout de suite.
Ouais.
Donc, j'ai toujours cherché, posé des questions, la nutrition, les étirements, l'entraînement, la muscu. Et puis, je venais quand même d'un autre horizon aussi. Je venais du BMX, qui arrivait dans un sport un peu plus, en tout cas, où tu travailles aussi d'autres filières physiologiques. Donc ouais, j'ai toujours appris à chercher plus, en fait, à faire plus, à m'entourer des bonnes personnes et même si des fois je peux être un peu têtue et me dire lui il m'a dit un truc ça me plaît pas et tout ça, en fait je le garde quelque part en moi et puis après s'il m'a dit ça je me dis peut-être qu'il faut que je travaille là-dessus ou moi j'accepte quand même, je me sers des critiques, je me sers des compliments, je me tout est force, tout peut être une force en fait.
Ok. Tu avais un carnet d'entraînement ou un carnet où tu pouvais noter justement.
J'avais, oui, parce qu'en fait, mon entraîneur, lui, il était basé sur Grenoble.
Ouais.
Donc, il venait me voir régulièrement, mais on échangeait tout. Et puis, quand je lui disais, hein, quand j'étais fatiguée, quand j'étais truc, lui savait tout, ça passait tout par lui.
Okay.
Et après, il retransmettait.
Mais tu le disais à l'oral, lui. Ouais.
Comment ?
Tu le disais à l'oral, du coup.
Je le lisais à l'oral. En fait, non. J'écrivais, après chaque séance, j'écrivais. Okay. Après, on se téléphonait. Donc là, je disais forcément les choses à l'oral.
Ok.
Voilà. Et puis après, c'est lui qui redispatchait avec le kiné, le médecin, le.
Ok.
L'entraîneur de l'équipe de France, parce que c'était quand même une pièce maîtresse. Moi, je pouvais pas passer outre. Hein. C'était. D'ailleurs, quand je parle de ça, j'en parle aussi en disant ce que j'ai vécu moi, c'est bien parce que. L'entraîneur à l'époque, autant sur le moment, je pense que ça les a blessés, que je ne les rejoigne pas complètement et tout, qu'après il a compris le besoin d'un athlète de vouloir être indépendant parce qu'il pense que. Ben moi, en fait, j'avais sûrement plus d'expérience du haut niveau que lui, en fait. Moi, j'avais déjà 30 ans quand on. Là, on parle des années, j'avais déjà 30 ans, donc j'avais déjà quelques heures d'entraînement et quelques saisons de compétition derrière moi. Et je savais donc. Je savais ce que j'étais capable, je savais ce dont j'avais besoin, et j'avais vu ce qu'ils faisaient faire aux autres. Mais je critiquais pas ce qu'ils leur faisaient faire. Mais il y a des choses, je me disais, ben non, moi j'ai pas besoin de ça, ou moi ça me conviendrait pas. Donc j'arrivais quand même à 30 ans à analyser ce qui serait le plus performant. Et puis là, on était clairement tenu par le temps. Hein. Il me restait plus qu'un an, ça faisait à peine un an que j'avais repris, donc il fallait que je progresse vite mais sans me blesser, que je passe sur un sport un peu plus endurant, sur un sport qui dure 30-40 secondes, à refaire énormément de muscu, prendre de la masse musculaire à 30 ans, c'est pas la chose la plus facile, et je voulais pas perdre de temps quoi en fait. Et pour en revenir à ce que je dis sur mon fil conducteur, c'est qu'aujourd'hui, lui, il a accepté... il n'a pas eu le choix sur le moment d'accepter ce que j'imposais. Et aujourd'hui, quand j'ai eu l'occasion de faire une immersion sur une Coupe du Monde de BMX pendant une semaine avec l'équipe de France, mais en fait, tout ce que moi, je n'avais pas le droit de faire, ils le font tous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont leur entraîneur perso, leur entraîneur est carrément inclus dans la dans le staff de l'équipe de France. Ils voyagent avec eux et tout. Mais pour moi, ça aurait été le rêve.
Ouais.
Mais en même temps, peut-être que trop de facilité, ça ne sert pas tout le temps. C'est, moi, ça m'a construite, ça, tout, de me dire que je, quelque part, je me battais aussi. Parce que clairement, il y avait un peu ce défi de se dire... tous à l'intérieur de la Fédé, ils veulent que ça soit quelqu'un qui sorte des pôles, qui gagne.
Ouais.
Donc il y avait quand même cette rivalité-là que j'ai pu ressentir en tout cas. Et,
c'est vous,
et,
c'est
et moi, ouais. Moi, tout ce qui est rivalité, tout ça, et ben ça me nourrit en fait.
Mmh.
Je me nourris dans le bon, mais je me nourris dans... Par exemple, quelqu'un qui va me faire une réflexion, qui va me dire que je suis nul, ben, je vais m'en servir pour dire... je suis pas nul et puis je vais te prouver que je suis pas nul. Je vais te prouver que je suis capable. Mais vraiment, c'est une source de motivation pour moi.
Ouais, je comprends. Ouais.
Donc dans tout ce qui est bon et tout ce qui est moins bon, j'arrive à le retourner et puis me dire bah de toute façon c'est comme ça et faut faire avec quoi.
Ouais. Tu te souviens de ta journée en entier, de cette journée en or?
Alors pour mes jeux, il y a eu plusieurs jours
ouais.
Parce que il y a eu pas mal de rebondissements. Et pareil, tous ces petits rebondissements ont fait que ça a vraiment nourri ma performance au moment où il le fallait. Quoi. Mais je me rappelle de tout, ouais. Tout.
C'est quoi les petits rebondissements?
Alors les rebondissements, c'est qu'on avait un jour de chrono, un contre-la-montre, qui établit les hits. En fait, moi, le plus rapide va se retrouver contre les moins rapides. C'est ce qui va établir les feuilles de race. Donc on a des chronos individuels, donc ça souvent j'étais très très forte. Moi je viens du VTT de descendre, donc un contre-la-montre c'est quand même ce que je sais faire le mieux. Et donc je gagne les chronos. Donc le jour d'après, en fait non, ce qui se passait c'est qu'on devait rouler sur 3 jours et le jour de la finale ils ont dit que sur 2 jours ou 3 jours, moi. Je m'embrouille. Mais bon, ils avaient dit que si le jour des finales, il devait pleuvoir, et que s'il pleuvait, il n'y aurait pas de report de course à cause des télés et tout ça. Donc les résultats se feraient sur les temps chrono. Donc oui, il y avait 2 jours de course.
Okay.
Le jour des chronos, puis le jour de course. Et donc moi, j'étais assez forte au chrono, donc on a 2 chronos. Franchement, je donne tout ce que j'ai pour... j'ai le meilleur chrono à la fin de la course, à la fin du premier jour. Et là, arrivé sur la météo, sur le ciel, moi, je ne dors pas de la nuit. Dans la nuit, il se met à pleuvoir. Le matin, il pleut. Donc, on se lève comme on allait faire la course le lendemain. Donc. Et pour moi, c'était pas beau parce que le BMX, on est d'accord, hein, c'est pas ça. Mais là, on parle d'une médaille olympique quand même, une médaille d'or. Donc,
ouais. T'es un peu médaillé avant l'or.
Voilà, je me dis, j'ai quand même fait le job parce que j'ai gagné ces chronos. Quoi.
Ouais.
Et là, on va dans l'ascenseur, tout ça. On dit, bon, il va y avoir une réunion, des managers, tout ça. En plus, les Françaises, on était 1 et 3, je crois,
ouais.
Sur les chronos. Et
vous avez réussi à faire mieux quand même.
Ouais,
c'est difficilement possible. Il n'y avait qu'une seule possibilité. Donc
Bon, du coup, on attend, je sais pas, à mi-journée, ils nous annoncent, il pleuvait, on ne pouvait pas rouler parce que le but de départ, c'est vraiment trop dangereux, les virages, c'est trop dangereux. Et ils nous disent que finalement, la course, elle sera reportée. Donc moi, j'ai ce sentiment d'injustice. Alors, je suis. Avec le recul, je suis bien consciente que ça aurait été dommage que pour une première Olympiade, le BMX, ça se joue sur un chrono. Parce que c'est un sport de contact, ça se fait à 8 le BMX, c'est un sport de confrontation. Hein. Mais bon, j'étais même pas triste, j'étais juste en colère que les instances nous annoncent quelque chose, puis qu'après, sous pression de je sais pas quoi, finalement, ils changent le plan et puis que donc il y aura une journée de report. Donc, il fallait profiter de cette journée et puis être prêt pour le lendemain. Donc, pareil, ça, quand tu penses qu'une finale, ça va être un jour, puis que c'est pas le bon jour, c'est compliqué. Mais je suis passée de la colère à me dire, c'est injuste, à me dire, eh ben non, ben je vais leur montrer que je vais leur montrer que c'est moi qui dois l'avoir, cette médaille, j'en sais rien, un truc comme ça, tu vois. Et donc j'ai transformé ma colère en surmotivation. Et puis ce qui s'était passé aussi, c'est qu'il y avait deux tours chrono donc la veille et j'étais tombée au deuxième. Et donc finalement mon corps il était quand même un peu meurtri et que finalement cette journée de repos, ben elle m'a fait vraiment du bien parce que je sentais bien que j'avais pas des super jambes. Donc moi je fais ce qu'on doit faire la journée, hein. on va récupérer et puis après je m'isole. On n'a pas le droit, on ne devait pas sortir normalement. C'était à Pékin là et on devait pas sortir en dehors des trucs sécurisés pour athlètes. Et moi je suis allée rejoindre mon copain qui était venu me voir au centre-ville dans un hôtel.
Oh la loi du coup.
Et j'ai passé tout l'après-midi comme ça à faire autre chose que de penser aussi qu'à ça quoi, parce que sinon là la journée comme ça elle est longue.
C'est long ouais.
Et puis voilà, cette journée de repos, plus d'avoir changé cette colère en motivation, ouais, j'étais une machine. Le lendemain, je suis quelqu'un d'assez stressé. Quoi. Je n'aurais peut-être pas dormi, tout ça. Là, j'ai assez bien dormi. Je me réveille le matin. Et j'avais vu l'année d'avant, en fait, ils avaient sorti là, le dernier Star Wars. En fait, j'avais vu toute la série des Star Wars. Et moi, dans ma tête, j'étais un Jedi. je partais à la guerre, j'étais un Jedi. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Quoi. Ben, après, j'ai eu... on avait établi des stratégies aussi, parce que je n'étais pas forcément la plus rapide sur la butte de départ. Et je me faisais souvent coincer sur la butte.
Okay.
Et là, on avait établi une stratégie au championnat du monde. En fait, mon entraîneur voulait que j'essaye au championnat du monde. Et puis, j'avais dit, mais non, si je vais au championnat du monde, elle va le voir. Du coup, ce sera mort pour les Jeux. Donc, au championnat du monde, j'ai accepté en fait, de partir à côté d'elle, qu'elle parte mieux que moi, parce qu'elle était quand même plus physique, qu'elle me coince, me retrouver septième en bas de la butte, et puis devoir remonter. Puis, j'étais remontée. Bon, il y avait des chutes, mais je crois que j'étais remontée deuxième. Donc, et en fait, c'est ce jour-là... quelques mois avant au championnat du monde, je me suis dit là, je vise même pas une médaille, je peux avoir l'or. Donc ça plus le mode Jedi, plus la stratégie là de m'éloigner d'elle au départ pour qu'elle puisse pas me coincer. J'étais une machine.
Ouais.
Après, il faut savoir qu'on avait beaucoup travaillé quand même avec l'entraîneur, avec le prépa mental de l'équipe de France. Donc, il me suivait du coup depuis le début, depuis un an et demi, qu'on avait tout le temps sur tous les stages et tout ça. Et ils avaient repéré quand même pas mal de... mes défauts à moi, sur lesquels on a travaillé, rouler avec le stress. Ben, c'était plus de lâcher prise, en fait. Parce qu'ils voyaient bien que j'étais hyper stressée, mais c'était justement réussir à accepter de faire des courses sans objectif, avec du lâcher prise, et ça a été très difficile au début. Puis finalement, j'ai vu que le résultat, c'était elle-même, avec un peu plus de confort.
Ouais.
Ça m'avait déjà bien fait progresser. Et puis, ils avaient repéré surtout que notre concurrente principale avec Laetitia, c'était cette Anglaise, mais qui avait de grosses lacunes au niveau des émotions et au niveau de la psychologie. Du coup, depuis le début, il me disait, mais affirme-toi devant toi, montre-lui que c'est toi la plus forte. Parce qu'en fait, elle était physiquement plus imposante que moi. Donc
T'es musclée un peu, ouais.
Ouais, grande, musclée, elle faisait facilement 15 kilos de plus que moi, donc il ne fallait pas trop jouer des coudes avec elle.
Ouais, c'est vrai qu'elle avait un physique assez impressionnant, ouais.
Et du coup, c'est vrai que puis moi, j'arrivais là, j'avais pas de nom, elle était plusieurs fois championne du monde. Ouais. Voilà, c'était la tête à abattre. Et puis le jour des Jeux, j'avais jamais osé le faire avant. Quand je me rappelle très bien, moi je gagne mes demi-finales et je la rencontre donc pour les finales. Donc on monte sur la butte de départ ensemble. Donc déjà le fait que je m'éloigne d'elle, que je choisisse pas la place sur la grille qu'en principe on prend quand on choisit en premier ou en deuxième, tout ça, ça l'a vraiment choqué.
Tu penses?
Ah oui, vraiment choquée, parce qu'en fait, moi, j'ai freiné un petit peu en demi-finale parce que c'est le meilleur temps. Je voulais pas avoir le meilleur temps.
Pour pas être à côté d'elle.
Pour pas choisir en première, parce que si j'avais choisi en première, elle se serait coulée à moi, en fait. Donc, je savais pas qu'elle aurait le meilleur temps, mais il y avait des chances quand même.
T'y as pensé.
Donc, ralentis un peu en demi-finale. Je me retrouve à choisir la grille après elle. Donc, je ne me mets pas à la 2 à côté d'elle pour ne pas me faire coincer, mais je m'éloigne. Je me mets, je crois, à la 4 ou à la 5. À la 4. Même la française, elle ne savait pas ça. Et même elle a été déstabilisée. Elle ne savait plus où se mettre. Donc, elle n'a pas osé se mettre entre elle et moi. Elle s'est mise à la 5. Donc, ça commence à faire loin. Et en fait, ça a plein de choses que moi, j'étais parée pour, puisque c'est moi qui l'ai décidé. Mais les autres, c'était complètement... Ça ne se faisait pas trop dans le sport. Moi, c'est pas que ça ne se faisait pas, mais logiquement, tout le monde choisissait vêtements. Les places plutôt inter pour avoir un peu moins de chemin à faire et tout ça. Et en estimant que si plus on s'éloignait, plus ce serait compliqué d'être devant, quoi. Bon, maintenant, on sait qu'en prenant la 8, il y a un Hollandais qui l'a fait souvent, et en prenant la 8, en s'éloignant de tout le monde, en faisant une belle ligne droite, il arrivait à être devant aussi. Mais moi, j'étais quand même peut-être pas assez forte pour faire ça non plus. Donc ma stratégie là, et puis en montant sur la grille de départ, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis « celle-ci, c'est pour moi », en anglais. Et en fait, elle a bien compris ce que j'ai dit, mais je voyais bien qu'elle était complètement désolée. Moi, elle savait pas, dans son regard, elle était perdue, quoi. Elle était... Et en fait, quand tu repères comme ça des points de faiblesse chez tes concurrents sur un sport comme ça, mais toi, ça te fait gagner en... J'étais déjà très pas sûre de moi, mais j'avais rien à perdre, quoi. J'avais tout donné, j'étais là pour ça et je savais pourquoi j'étais là, quoi. Et j'ai mis toutes les cartes qu'on m'avait données pendant ces années, peut-être toute ma carrière, en fait. Hop, j'ai réussi à les mettre, hop, les unes à côté des autres, elles s'alignaient parfaitement et ça a été parfait, quoi. Okay. Et après, même sur le vélo, j'ai eu une espèce d'intelligence de course. Mais parce que je la connaissais, je savais comment je l'avais roulée. Je l'avais regardée rouler avant, donc je savais comment elle sortait du virage.
Plutôt large, du coup.
Plutôt large, à chaque fois. Hein. Et puis, elle était tombée déjà deux fois dans ce virage-là, donc j'étais sûre qu'elle n'allait pas le serrer. Donc moi, pareil, je pars plutôt bien, mais elle se retrouve vite à côté de moi. Et je freine un tout petit peu pour qu'elle me dépasse... en fin de première ligne pour pouvoir lui repiquer derrière.
Ouais.
Alors, c'est ce qu'on appelle un virage école, mais c'est du ressenti de course. Toi. C'est beaucoup d'expérience, je pense, qui a réussi à se mettre en place ce jour-là. Et rien que d'en parler, je suis encore dans le truc parce que c'est loin, c'est pas du tout mon meilleur run. Mais je fais, en fait, on va vite, on va plus vite que d'habitude. Du coup, on fait beaucoup de longs sur les bosses, mais elle et moi. Hein. Mais après, quand t'es devant, t'as la main, quoi. Clairement, tu as la main, tu peux te déporter un peu, la coincer un peu. Et après, il y a ce fameux virage.
Le dernier, du coup.
Ouais, le dernier virage où, en fait, je regarde un tout petit peu à l'inter et je la vois. Donc, je sais qu'il faut que je resserre mon virage. Et elle, bon, après, on l'a su qu'après. Hein. Elle a dit, de toute façon, moi, je voulais pas... C'était soit je gagnais ou rien. Donc, en fait, elle m'a coupé en deux.
Elle a essayé, ouais.
Elle a essayé en tout cas. Donc elle a été disqualifiée, elle n'est pas classée. Après, c'est juste incroyable parce que c'est ce que je voulais évidemment, mais ça s'est tout goupillé parfaitement. Mais des fois, ça se joue à rien et puis pas que à nous. Donc c'est juste incroyable, quoi.
Ouais. Elle a failli te faire tomber, mais finalement, tu. Ne bouge pas, en fait.
En fait, j'étais tellement sur mes appuis que c'est passé, mais ça aurait été un millième de seconde avant, ça aurait pas été la même. Donc, il y a quand même un petit peu de chance là-dedans aussi, quoi.
Ouais, bien sûr. Et puis, ça aurait pu être extrêmement rageant qu'elle t'emporte avec elle.
Oui, puis surtout,
même
si
elle
est
disqualifiée, si vous soyez toutes les deux.
Si on est deux au milieu de la piste, probablement que Laetitia, elle passe pas non plus. Donc, ouais, ça aurait été catastrophe pour nous, mais pour le sport aussi. Parce que le BMX, évidemment, il y a énormément de chutes, mais c'est pas comme ça qu'on veut voir une finale olympique, quoi.
Ouais, bien sûr. Bon, je remettrai la vidéo, en tout cas, dans les commentaires de l'épisode, parce que ça vaut le coup, quoi. C'est une course assez mythique.
Ouais, bah, pour moi, c'est la course... c'est la course... pas parfaite, mais c'est tellement d'expérience... Tout s'aligne au bon moment et tout ça en vomissant, en me cachant dans la poubelle, 10 minutes avant de monter sur la grille, quoi. Parce que je suis toujours hyper stressée et que c'est pas commun pour moi de vomir juste avant la course, mais c'est quelque chose que, dont j'ai l'habitude aussi, quoi.
Wow, ok. Comment tu te sens après, du coup ?
Bah déjà, j'ai essayé que, qu'on me voit pas, parce que si les autres voient que t'es en difficulté, ça leur donne de la confiance. Et là, tu pars d'après la course ou après
Non, mais ouais, les deux m'intéressent. En fait, c'est vrai que je pensais après la course, mais là, je me dis, waouh. Moi, je suis un gros anxieux, tu vois. Alors, les vomis avant match ou les vomis avant de monter sur scène, j'ai pas, mais je suis pas bien, quoi. Tu vois, je suis vraiment
tombé. Ouais. Alors, moi, ma théorie par rapport à ça, c'est qu'en fait, comme j'ai toujours été super stressé, mais vraiment, que je fasse une course régionale, en fait, moi, je veux bien faire. Et je veux me surpasser. Donc, je fais pas beaucoup de... Dès qu'il y a un dossard, en fait, même si c'est pas ma discipline, mon truc, j'aime bien faire. Et du coup, je me mets une pression de ouf. Mais je me dis qu'en fait, vu que c'est mon quotidien, le jour où c'est plus, bah, c'est quelque chose que... C'est pareil, en fait. C'est quelque chose que je connais et que je sais appréhender. Alors que peut-être pour d'autres... Parce que c'est souvent le cas au jeu, en fait. On dit que c'est un événement comme tous les autres, puis en fait, on voit bien qu'il y en a beaucoup qui se loupent, alors que jamais de la vie se loupent d'habitude. Mais c'est parce qu'il y a quand même une importance sur cet événement-là qui fait que c'est un événement à part.
Ouais.
Et que finalement, se cacher, se dire que c'est un événement comme les autres, ça ne marche pas, parce que ça ne l'est pas.
Ouais.
Et que le stress, il va y en avoir. Donc forcément, si tu as l'habitude d'en avoir... ça va ressembler plus à ton quotidien et sera plus facile à gérer que quelqu'un qui n'est jamais stressé. Je ne vois pas qui peut arriver au jeu sans être stressé, à part si c'est vraiment un outsider et qui sait qu'il va en refaire d'autres, et je ne sais pas.
Mais c'était Jacques Brel qui disait dans une interview que lui, une fois sur deux ou une fois sur trois, avant de monter sur scène, bah ouais, il allait vomir. Et qu'il préférait y aller, en fait, parce que ça le libérait, en fait. Il sentait qu'il y avait un poids en moins et que...
Ouais, peut-être, ouais.
Qu'il y avait un truc libérateur. Et dans ses représentations du port d'Amsterdam ou de certaines de ses chansons qui sont devenues un peu mythiques, tu vois, il dit que toutes, avant, il avait dû évacuer, quoi.
Et ouais. Non, mais ça c'est, ouais, c'est parce que je pense que c'est des gens assez exigeants.
Ouais.
Et qui veut donner le meilleur de. Il voulait sûrement donner le meilleur de lui-même, donc il se mettait la pression par rapport à ça. Ouais.
La vie, elle change, du coup, quand on est champion olympique.
Alors, sur le moment, c'est ce qu'on croit. En tout cas, c'est sûr que quand on passe la ligne. Moi, je me rappelle très bien de ce sentiment de ne pas y croire, en fait. Donc, d'être super heureuse pendant 5 secondes, puis les 10 secondes d'après, ça me dirait « c'est vrai ». Alors du coup, je pleurais. C'était très bizarre. Et puis il y avait ce truc que j'avais promis à mon père aussi. Pour moi, c'est tout son sens, ça prenait son sens là-dedans aussi, la victoire, quoi.
Ouais.
C'est que je n'avais pas sacrifié toutes ces heures, tous ces moments en famille pour rien non plus, quoi.
Ouais.
Ouais, c'était très fort pour ça aussi. Et ça l'est toujours aussi. Hein. Mais après, sur le moment, pendant les mois qui suivent, toi, t'es sur un petit nuage quand même. Hein. Déjà, t'as beaucoup de sollicitations. Et puis moi, j'avais annoncé, quoi, je ferais plus de BMX après. C'était un peu ma fin de carrière, donc c'était la super cerise sur le gâteau, quoi.
Ouais.
Et en sachant qu'il y a de toute ma vie, en fait, je n'avais jamais trop rêvé des Jeux parce que je ne faisais pas des sports olympiques, quoi.
Ouais.
Donc ouais, c'était juste incroyable, quoi.
Est-ce qu'on peut vivre un truc aussi fort après dans toute une vie que préparer pendant 2 ans intensément les Jeux, les gagner sur une compète où tu fais un peu les montagnes russes en émotion, tu vois, mais finalement le plan prévu déroule parfaitement, tu vois. Est-ce que derrière, on peut... Il y a des trucs aussi intenses, tu vois.
Ben, ça a été un peu le problème. Moi, c'est un peu le problème. Ça l'est toujours un peu. C'est que, en fait, après, on s'ennuie, quoi. On s'ennuie parce que... Mais je sais que j'avais préparé. Déjà, je m'étais préparé à peut-être que les Jeux ne marchent pas. Donc du coup, je m'étais inscrite à... Il y avait une session spéciale BE haut niveau. Donc passer le brevet d'état cycliste pour les athlètes de haut niveau. Donc je m'étais inscrite à ça. Du coup, ça a été un peu chargé. Mais je ne voulais pas me retrouver chez moi sans rien faire. Plus d'objectifs. Je ne sais pas, c'était très bizarre. Donc je suis restée pas mal occupée. Et puis après... Après, j'ai fait de l'enduro, pareil, la nouveauté, je dis, ça va. Bon, au début, c'était pas trop connu, mais après, c'est passé Coupe du Monde, IWS, puis maintenant Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai continué ma vie de sportive, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui peut égaler un championnat du monde ou une médaille olympique, quoi. Ouais. Rien. Et après, dans la vie, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine qu'il y a des choses qui procurent des bonheurs intenses. Mais jamais de la vie, ce sera aussi. Ben, en tout cas, quand ça se passe bien, comme ça s'est passé pour moi, ça peut pas être aussi, je sais pas, aussi intense. Ouais, c'est le mot. Ouais. Ouais. L'adrénaline, toutes les émotions que ça. Il y a plein de choses dans la vie, mais c'est jamais.
Ouais. Bah, je te reprends un peu sur les enfants parce que tu t'entraînes pas pendant 3 ans, 10 ans de ta vie pour avoir des enfants. Il y a un moment où tu te dis ok, je passe le cap et tu le fais, mais on le fait rarement aussi intensément qu'un sport de haut niveau, tu vois. Ou tu l'as dit, toi pendant un an, il y avait que ça dans ta vie. L'obsession de la médaille permanente de chaque instant, tu vois. Et je pense pas que c'est aussi fort, tu vois. Autant de travail, autant d'accomplissement, autant de... Tu mets pas toujours autant de symbolique derrière, tu vois. Un enfant, c'est un peu... tu te poses moins de questions aussi de pourquoi tu le fais.
Les bonheurs plus simples de la vie, ouais.
Ouais, tu vois.
Mais ouais, c'est ça, du coup, il y a moins d'intensité. Et dans le sport, c'est ça qu'on va chercher, en fait. C'est pas juste... Alors oui, il y a tout le chemin qui amène là aussi, hein, qui est important.
Ouais.
Je crois que c'est très à la mode chez les sportifs actuels. Hein, c'est pas forcément la finalité, mais le chemin qui est important. Mais bon, dans un athlète, du moment qu'on fait de la compétition, le chemin est important parce que ça te construit en tant que personne. Mais le résultat, quand même, il est quand même important, quoi.
Ouais, bien sûr. Bah, toute la dualité, elle est là, ouais. C'est qu'il faut se détacher de l'importance... en prenant en priorité sa progression et son plaisir, mais la récompense, ça reste le résultat, quoi.
Mais donc, ouais, c'est ça.
C'est très dur de dissocier les deux, en tout cas.
Mm.
Qu'est-ce qui t'est arrivé en juillet 2015 ?
Alors, en juillet 2015, il m'est arrivé que je faisais les Coupes du Monde d'enduro, donc j'étais quand même super en forme. Et puis, ça faisait quelques mois que j'avais souvent mal au ventre quand je roulais. Et puis là, sur une Coupe du Monde... En fait, c'est pas que je roulais, c'est que je faisais de la marche arrière, quoi. J'étais collée. Pourtant, j'avais gagné le début de saison, quelques mois avant, une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et tout. J'avais déjà des petits soucis, mais voilà. Là, j'avais vraiment un truc qui allait pas. Donc, première fois de ma vie que je renonce. C'est-à-dire que je fais même pas une... Je crois que je fais une spéciale, et puis là, je comprends que j'y arriverai pas. Hein, donc, je pourrais même pas faire la journée à 2 à l'heure. Donc, j'arrête. Et puis rapidement, après, hein, je fais des examens et puis on me décèle une grosseur dans le ventre qu'il faut enlever. Et donc rapidement, au mois d'août, là, je me fais enlever la grosseur, puis analyser. Et puis il s'avère que c'est un cancer des ovaires, mais un cancer assez rare. C'est d'autant plus rare que j'avais 37 ans à l'époque. Donc ouais, c'est dur à accepter. Parce que quand t'as passé ta vie à faire du sport, moi je dis pas qu'on pousse la machine probablement trop loin. En plus, moi je suis hyper stressée, donc peut-être que j'ai trop poussé. Mais enfin, les questions, je m'en pose tous les jours et encore maintenant, 10 ans après. Ouais, on t'annonce, hein, comme ça, vous avez un cancer, quoi. T'as 37 ans, c'est très très dur. Donc la première chose que tu penses, c'est je vais mourir. Donc, ouais, c'est dur d'en parler parce qu'en fait, on m'a jamais posé des questions. J'en parle, hein, souvent, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment ces moments qui ont été durs, et je pense qu'il y a dur pour en fait, des milliers de gens. Hein, c'est que du jour au lendemain, on te dit ça, mais froidement, quoi, presque. Hein. Donc moi, j'ai quand même la chance d'avoir des médecins qui sont mes chirurgiens qui sont devenus des amis, hein, parce qu'ils ont fait des choses qu'ils n'auraient peut-être pas fait avec d'autres personnes, mais parce qu'ils ont vu à quel point j'étais capable de récupérer et de m'investir pour récupérer, en fait. Moi, là, finalement, pas la seule chose que je sais faire dans ma vie, mais c'est prendre soin de moi, récupérer, me mettre à niveau, me fixer des objectifs et arriver à atteindre ça. Donc,
c'est pas du tout la seule chose que tu sais faire dans ta vie.
Non, bien sûr.
Tu excelles dans cette discipline.
C'est comment j'opère, en fait. Comment je fonctionne. Il faut. Ben, je me pose un objectif et puis après, on essaye de trouver des solutions, quoi. Donc, je crois que la maladie, pour moi, je vais directement sur ce terrain-là parce que c'est comme ça que je l'aborde et puis que, comme ça que pour le moment, je survis. Donc, donc à l'époque, ils opèrent, c'est cancéreux. Donc, du coup, il faut faire une chimio pendant 6 mois. J'ai de la chimio. Et puis, tout se stabilise. Bon, c'était stabilisé, en fait, du moment. Pour eux, il n'y avait pas d'autres cellules infectées autres que la grosseur dans le ventre. Donc, on fait la chimio. Et puis, derrière, je reprends à peu près mes activités. J'ai réessayé de faire des coupes du monde, mais symboliquement, pour me dire, voilà, j'ai remis mes pieds sur un vélo en coupe du monde, j'ai fini la course, donc ça, juste après avoir fini la chimio, et donc en enduro, et puis il se passe 2-3 ans, et puis, donc à l'époque, j'avais fait une vidéo, en pensant réellement que j'allais être guérie, hein. Et puis en me disant que ça allait pouvoir aussi peut-être servir à d'autres personnes qui se battent contre cette maladie. Et puis là, je faisais plus d'enduro en compète. Par contre, je refaisais beaucoup de descentes pour plaisir. Et puis forcément avec des chutes. Puis je commençais à avoir mal au dos. Donc ça, c'était 3 ans après, 2015-18. Et là, on refait des examens. Et le médecin, en fait, mon chirurgien, il me dit « Non, mais c'est normal d'avoir mal au dos. Avec l'âge, ça ira pas de mieux en mieux. » Je suis « Ouais, mais là, quand même, j'ai quand même vraiment mal. » Et en fait, on fait des examens et il voit qu'il y avait des tumeurs au niveau de la colonne, moins sur les côtes, sur la plèvre, à la base sur la plèvre, et puis qui avait affecté les côtes, en fait. À ras de la colonne. Donc de là, chimio, opération, donc grosse opération, où on m'enlève des côtes à ras de la colonne. Et puis, puis voilà, après, à chaque fois, on apprend à se remettre en forme, à essayer de croire en la vie. Ça a été plein de rebondissements. Hein. J'ai pas mal récidivé, donc à chaque fois, je suis surveillée de près. Ils opèrent quand ils peuvent. J'ai fait de la cryo aussi, de la cryoablation, en fait. Ils mettent du froid pour stopper les cellules cancéreuses. Et j'ai eu une thérapie ciblée, donc j'ai fait 3 chimios au total. Les opérations, je les compte plus trop, mais il y en a eu au moins 5. Voilà. Et puis là, on m'avait annoncé que c'était vraiment... qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. En tout cas, que les traitements ne marchaient pas, donc qu'il fallait arrêter de faire des chimios. Et voilà, maintenant, on navigue à vue, et s'il faut opérer, on opère. Et puis, si on ne peut pas opérer, bah, ça sera compliqué. Mais en tout cas, en ce moment, tout va bien. Et depuis plus d'un an.
Mais écoute, merci de partager tout ça. Et bravo pour tout le courage, quoi, dont tu fais preuve. Je sais à quel point, pour le vivre... dans ma famille, quand t'as pas quand t'as pas de date et quand on te dit que les solutions que tu mets en place, elles fonctionnent pas, je sais à quel point c'est douloureux, c'est déroutant. C'est un combat de tous les jours
En fait, c'est, moi, ce que j'ai mis en place, c'est parce que je fonctionne comme ça et je fais du mieux que je peux, mais je ne pense pas que je sois exceptionnel. Hein. J'ai juste sûrement un peu de chance. Après, j'ai quand même eu une vie saine, donc c'est sûr qu'à un moment, il y a un truc qui a bugué. Et si on ne sait pas le guérir aujourd'hui, j'espère qu'on saura le guérir demain. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et c'est pour ça aussi que je m'accroche. Mais clairement, il y a des moments où tu as envie de tout plaquer. Puis tu te regardes, puis tu te dis, mais regarde. En fait, voilà, je vois la vie très différemment maintenant. Avant, c'était... comme je suis très... Il faut toujours performer, il faut toujours arriver à ce que tu veux. Et je vois beaucoup le mal pour réussir à le modifier, en fait. Et je profitais pas assez du présent et du bien. Donc aujourd'hui, je vois les choses beaucoup plus simplement. C'est sûrement pour ça aussi que je fais beaucoup de montagne. C'est qu'en montagne, je pense qu'il n'y a rien de plus pur. Et que ton cerveau, il se vide complètement, quoi. Tu te concentres à ce que tu dois faire. T'essayes de pas faire d'erreur. Et puis, basta. Et pour moi, la vie, faut profiter, quoi. Faut profiter parce que finalement, moi, je suis en vie 10 ans après. Alors finalement, quand tu prends l'historique de ma maladie, ça fait bien longtemps que je n'aurais pu être là. Et il y a des gens, il y a un an, je pensais qu'ils seraient toujours à mes côtés, qu'ils ne sont plus. Donc, je pense juste qu'il faut... Voilà. On va tous mourir un jour ou l'autre. Ce dont on a peur, à mon avis, c'est plus la façon dont on va mourir, les souffrances, que la mort en elle-même. Parce que la mort en elle-même, une fois qu'on est mort, on est mort. Mais par contre, tout ce qu'il y a avant ça, c'est plein de belles choses. Donc, on est de toute façon là de passage et il faut profiter, quoi.
Voilà.
Mais c'est facile à dire, mais après, l'intégrer et le faire au quotidien, c'est pas forcément acquis pour tout le monde, en tout cas. On l'entend tous les jours, on l'entend de plus en plus, en fait, hein, parce qu'il y a de plus en plus de gens malades. Mais la vérité, c'est que franchement, quand tu regardes le monde autour dans lequel on vit aujourd'hui, tu dis, mais il n'y a rien qui tourne vraiment rond, alors que la vie, elle pourrait être si simple, quoi.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
Une longue vie. en ce moment, je fais aussi, on en a parlé avant, c'est que j'avais plus ou moins des projets. Aujourd'hui, avec la maladie, tout ce qui m'arrive, je ne sais pas si je veux continuer là-dedans ou pas. Donc, retrouver un peu d'inspiration, on va dire. Et pour que les journées passent... les journées sont belles, hein, parce que je fais quand même ce que je veux. Je fais beaucoup de sport. Et tout va bien, mais retrouver un but dans ma vie, ouais.
Ok. Mais je te le souhaite de trouver un peu de bonheur dans du quotidien et trouver une nouvelle passion qui t'amène à des sensations peut-être pas aussi fortes mais plus douces aussi, ça fait du bien.
Oui, c'est ça, merci.
Un peu de douceur. Merci pour tout.
Merci à toi.
Salut.
Ciao, ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.